Chapitre 12. Juliette se garda bien de raconter quoi que ce soit à sa grand-mère de l'épisode des jardins botaniques, car la journée s'était achevée de façon assez dramatique. 6 de ses poursuivants avaient fini en tombant dans un tas de compost pestilentiel, un mélange de fumier de cheval en pleine fermentation, de fruits gâtés, de feuilles en décomposition et de bestioles écrasées. Seule Cheryline avait échappé au désastre, parce qu'elle n'avait pas réussi à suivre. Mais l'équipe de sauveteurs l'avait retrouvée dans un état second, jacassant de façon incompréhensible après s'être retrouvée nez à nez avec un lynx aux yeux jaunes et brillants. Quant à Miss Faulkner, elle était dans une telle rage qu'elle avait failli avoir une crise d'apoplexie. Elle était surtout furieuse que personne ne veuille avouer la vérité sur ce qui s'était passé. Même Madame Ratmore avait perdu son sens de l'humour. Heureusement, elle estimait que les enfants avaient été suffisamment punis en ratant le pique-nique et le concert des musiciens, puis en étant la risée cruelle des autres élèves dans le car au retour. On les avait obligés à s'asseoir dans le fond du car alors qu'ils mourraient de faim et enragés. Autrement, ils auraient été bons pour passer le reste du trimestre à couper l'herbe des terrains de sport du collège aux ciseaux à ongles. Personne ne comprenait non plus par quel miracle Juliette et Ben avaient échappé au désastre. Ils avaient tranquillement réapparu pour venir s'asseoir sur la nappe de pique-nique à côté des musiciens et savourer le maïs au beurre fondu et les belles parts de Melk Tert, la tarte au lait sud-africaine. Miss Faulkner avait cependant quelques soupçons et les avait prévenus qu'elle gardait un œil sur eux. Mais ce que Juliette craignait plus que tout, c'était la volonté de revanche du gang des 5 étoiles.
« Tu ne t'en sortiras pas comme ça !»
avait sifflé entre ses dents Scott Anderson en montant dans le car, couvert d'immondices. Et elle ne doutait pas qu'un jour le gang se vengerait. Heureusement, depuis que sa grand-mère l'avait trouvée en train de désherber les plants de carottes, le lendemain de leur dispute, une trêve semblait avoir été déclarée. À tel point que Juliette fut autorisée à accompagner Tendai lors de ses rondes dans la réserve le week-end suivant, et celui-ci passa la prendre un samedi matin à 4h30, alors que l'aube pointait à peine dans le ciel étoilé. Il lui proposa de commencer par le plus haut sommet de Sawumbona, un escarpement couvert d'aloès, de protée et d'une espèce d'arbuste qui sentait le curry. La route qui y menait était dans un très mauvais état et difficilement praticable en voiture jusqu'au bout. De drôles de cactus étaient accrochés aux roches, tapissées de lichens. Tendai et Juliette abandonnèrent alors la jeep et firent les derniers mètres à pied sous un ciel parcouru de nuages aux couleurs de feu. Arrivé au sommet, Tendai sortit de son sac à dos de quoi petit déjeuner et Juliette s'installa confortablement sur un rocher qui était encore chaud de la chaleur de la veille. Au loin, à leurs pieds, on voyait le plus grand barrage de Sawumbona. À mesure que le soleil se levait, Juliette s'habitua à la lumière dorée et peu à peu distingua les troupeaux de buffles, de springboks et d'éléphants qui se déplaçaient en direction de l'eau. Des aigrettes blanches observaient le spectacle du haut des arbres, tels des oiseaux de papier japonais. Elle n'avait jamais respiré un air aussi pur, ni joui d'une vue aussi sublime, ni entendu un concert de chants d'oiseaux aussi étonnant. Elle aurait tant voulu que ses parents soient à côté d'elle pour partager sa joie. Heureusement, la pensée que sa maman était sûrement montée jusqu'ici pour admirer le lever du soleil la consolait. Tendai fit un petit feu pour préparer du thé. Puis il donna à Juliette une miche de pain chaude, cuite au four à charbon, à base de farine de maïs et enroulée dans des feuilles de bananier. Et tous deux dégustèrent leur petit déjeuner, ravis, en observant les animaux qui s'ébrouaient dans la vallée. « Tendai, « je peux te poser une question ?» demanda Juliette au bout d'un moment. « Yebbo !»« Vraiment ?»« Yebbo !»« D'où vient ta cicatrice sur le visage ?» Tendai réagit en éclatant d'un rire amer, dépourvu de sa spontanéité et de sa bonne humeur habituelle.
« Elle ne date pas d'hier, ma petite. D'ailleurs, elle est tellement vieille que ça n'a plus beaucoup d'importance. À l'époque, j'étais un jeune homme en colère. »
Juliette comprit qu'il n'avait aucune envie d'en parler, mais sa curiosité l'emportait.
« C'est un animal qui t'a attaqué ou tu t'es bagarré ?»
Tendai déboutonna sa chemise et Juliette étouffa un cri. Son dos et sa large poitrine étaient lacérés d'immenses cicatrices, comme si quelqu'un avait essayé de le tuer à coups de couteau.
« Je me demande bien quel animal ferait un massacre pareil, » lâcha-t-il. « Les animaux te griffent, te mordent ou te déchiquettent s'ils sont affamés, paniqués. Mais il n'y a que l'homme pour te détruire à ce point-là, jusque dans ton cœur. Et pour une seule raison, la couleur de ta peau. »
Juliette était bouleversée. Le visage de Tendai se détendit peu à peu et il se mit à parler avec une expression lointaine, comme s'il évoquait des événements qui avaient eu lieu sur une autre terre, dans une autre vie.
« J'avais 12 ans quand mes parents ont quitté le village, dans les montagnes de Drakensberg, pour venir s'installer dans les fameux townships de Soweto, près de Johannesburg, où ils espéraient trouver du travail. À cette époque, on aurait dit que le diable s'était installé à Soweto pour transformer le quartier en enfer. Mais un enfer réservé aux Noirs. Des familles entières vivaient dans les baraques en tôle ondulée, sans eau courante ni toilette. Le soir, quand la nuit tombait, on faisait des feux pour éloigner les cafards et les rats, et les gangs armés sillonnaient les rues. » Il fit une pause.
« Je ne devrais peut-être pas te raconter ça. Je ne suis pas sûre que ta grand-mère serait très contente. »
Juliette se leva de son rocher et se rapprocha de Tendai.
« S'il te plaît, Tendai, ça m'intéresse. »
Même s'il avait connu l'horaire de la vie à Soweto, Tendai estimait qu'il avait eu plus de chance que la plupart de ses camarades. Sa mère était un professeur diplômé et elle l'avait toujours soutenu quand il était au lycée. Il avait beaucoup travaillé, tout en rêvant de retourner dans les montagnes pour s'acheter sa propre ferme. À 17 ans, il avait réussi à décrocher un job de cheminot dont il était extrêmement fier. Mais il y avait eu un problème. Tous les matins, il fallait qu'il parcourt près de 10 kilomètres à pied pour aller à la gare, et presque tous les jours, il se faisait arrêter par la police qui demandait à vérifier ses papiers. À l'époque, un nom blanc, ou un homme de couleur, n'avait pas le droit de se déplacer sans ses papiers d'identité.
Il y avait en particulier un flic qui ne pouvait pas me voir en peinture, alors qu'il ne me connaissait pas. J'avais l'impression qu'il n'attendait qu'une chose de pouvoir m'arrêter. »
Juliette vit que Tendai tremblait. « Et il t'a attrapé ?»«
Il m'a chopé un jour, sans mes papiers. Ma mère avait lavé ma chemise et elle avait oublié de les remettre dans la poche. Le flic a commencé à me bastonner avec sa matraque et à me hurler dessus. J'ai eu beau lui rappeler qu'il avait déjà contrôlé 100 fois mes fichus papiers. Il m'a traité de tous les noms, jusqu'au moment où il m'a arraché ma chemise. Jusque-là, j'avais à peu près réussi à me maîtriser, mais quand il a déchiré ma chemise, la seule que j'avais pour aller travailler, je suis désolée, mais là, je me suis déchaînée et je lui ai flanqué un coup de poing très violent. »
Tendai se souvenait mal de ce qui s'était passé ensuite. Quand il était revenu à lui, il était dans un hôpital de prison, lacéré de coups de jambok, un fouet fabriqué à partir de peaux de rhinocéros. 9 mois plus tard, il était relâché et découvrait que ses parents avaient été chassés par les autorités. Il ne les avait jamais revus depuis. À 18 ans, Tendai était un homme brisé qui vivait, ou survivait, dans les rues de Johannesburg. Et c'est là que Grace, sa tante, était venue le chercher.
« C'est Grace qui m'a appris que la meilleure revanche est le pardon. Parfois, ce qui rend fou tes ennemis, c'est de voir que tu n'es pas comme eux. À ce moment-là, Grace m'a présenté à ton grand-père et il a changé ma vie. Il croyait en une Afrique du Sud où les hommes sont égaux, quelle que soit la couleur de leur peau. Ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là.
Pourquoi ? Demanda Juliette qui revit le visage d'Alex Dupuis affleurant sa mémoire.
Si je savais, ma chérie.
Peu après, ils remballèrent les affaires du petit déjeuner, jetèrent du sable sur les dernières braises et commencèrent leur descente. L'herbe était encore mouillée de rosée, mais le soleil du matin tapait déjà. Tendai en profita pour donner son premier cours de science de bouche à Juliette. Il ramassa une feuille d'aloès et lui montra comment la presser de façon à en extraire un gel apaisant qui guérissait les blessures et calmait les démangeaisons. Juliette était impressionnée, mais ce n'était rien à côté du maroula, un arbre qui faisait office de pharmacie complète à lui tout seul. Non seulement son fruit jaune d'or calmait les brûlures d'estomac, mais il contenait 4 fois de plus vitamine C qu'une orange. Ses feuilles étaient un pansement parfait pour les blessures et les morsures d'insectes, et son écorce servait d'anti-inflammatoire. Et ce n'était pas tout. Le noyau du fruit du maroula contenait une huile que les Africains prisaient sous forme de gouttes pour le nez et les oreilles, ou de chandelles naturelles qu'ils allumaient directement dans la coque du noyau. Les Zoulous allaient même jusqu'à croire que si une personne atteinte de la rougeole se levait avant l'aube, allait au pied de l'arbre sans parler à quiconque et mordait l'écorce, elle était aussitôt guérie. Juliette admirait la nature alentour. Plus les jours passaient, plus elle sentait qu'elle appartenait à cette terre. Le paysage pénétrait doucement tout son être, comme la musique d'une langue inconnue jusqu'alors. Le chant des oiseaux, le souffle du vent, les plantes, les rencontres avec les habitants du pays ou les animaux, tous formaient le vocabulaire de la langue du bush et elle espérait qu'un jour elle finirait par la parler aussi couramment que son guide. « Montre-moi d'autres choses, » supplia-t-elle. Tendai se plia volontiers à sa demande. Il lui apprit ainsi à identifier un champignon orange formé de plusieurs pellicules qui était délicieux cuit, ou à fabriquer un cône de feuilles pour récupérer la rosée, l'eau de la pluie. Il lui montra même l'arbre papier toilette, dont les frondes douces étaient particulièrement appréciables et en avait un besoin urgent loin de chez soi. Enfin, comble de tout, Tendai apprit à Juliette à fabriquer une boussole naturelle. Il commença par choisir un bâton bien droit d'environ 1 mètre. Puis il l'enfonça dans la terre, dans une zone dégagée, sans herbe ni végétation, de façon à ce qu'il projette une ombre bien visible.
« Une fois que tu es sûr que le bâton tient bien droit, tu marques l'extrémité de l'ombre avec le doigt ou avec une brindille, » expliqua-t-il. « Tu attends 1 quart d'heure, et quand l'ombre bouge, tu marques à nouveau l'extrémité. Tu traces une ligne droite entre les 2 marques, ce sera ta première ligne est-ouest. Maintenant, si tu poses ton pied gauche sur la première marque et ton pied droit sur la seconde, tu sais que tu fais face au nord, en gros. Il existe des moyens plus précis de se repérer, mais pour toi, je pense que c'est le plus simple. »
Juliette aurait volontiers passé sa journée à écouter Tendai lui enseigner les secrets du bush. Mais elle savait qu'il avait beaucoup de travail et elle le remercia alors qu'ils poursuivaient leur descente. Le sentier était très touffu et ils étaient souvent obligés de s'arrêter à cause des cactus et des roches. À un moment, Juliette était sur le point de sauter d'un rocher sur un épais lit de feuilles quand Tendai tendit le bras et la repoussa si violemment qu'elle glissa et s'érafla le genou. Elle allait lui demander, légèrement vexée, pourquoi il avait fait cela, quand elle croisa son regard sombre. À ses pieds, camouflés dans les feuilles aux nuances brunes, grises et jaunes, se lovaient une douzaine de vipereaux, les petits de vipères de Berg. Leurs morsures étaient aussi venimeuses que celles de leur mère. Juliette eut un choc. C'était la 2e fois en moins de 2 semaines que quelqu'un lui sauvait la vie.
Et si j'avais été mordue?
Tu ne l'as pas été.
Oui, mais qu'est-ce qu'il me serait arrivé si je l'avais été?
Tendai refusait de répondre.
Quel que soit le type de morsure, il faut tâcher de rester calme et garder son sang-froid, dit-il simplement. Essayez d'identifier le serpent et allez chercher de l'aide, si possible, sans paniquer.
À sa grande surprise, elle apprit que l'urine était un excellent antiseptique et le meilleur moyen de se soigner si un cobra vous crache dans l'œil et que vous n'avez pas d'eau à portée de main. Elle essaya de s'imaginer en train de faire pipi dans une tasse ou dans sa main pour se passer l'urine sur les yeux.
Pouah !
Et elle trembla en se rappelant qu'elle l'avait échappé belle quelques jours auparavant face au cobra du Cap. Désormais, elle serait plus vigilante et ferait tout pour éviter les serpents. Tendai lui jeta un regard taquin et éclata de rire.
« Ne t'inquiète pas, ma petite. Les serpents eux-mêmes font tout pour éviter les humains, et ils mordent rarement, sauf si on les coince ou s'ils se sentent menacés.
« Hum, hum !»
murmura Juliette dubitative.